L'ouverture du procès des époux Balkany poursuivi pour fraude fiscale. Isabelle Balkany est absente après sa tentative de suicide, mais le tribunal a rejeté la demande de renvoi formulée par la défense. Le compte-rendu de Delphine Gauthier dans un instant. Air France va supprimer plus de 400 emplois. C'est le premier plan de départ volontaire du nouveau PDG Ben Smith. Les explications d'Hakim Kasmi. Hommage national aux soldats tués au Burkina Faso, demain aux Invalides. Les quatre touristes sauvés par les militaires français sont mis en cause pour leur imprudence. Nous en parlerons avec notre invité, l'ancien officier Michel Goya, spécialiste des questions militaires. Et nous terminerons ce journal avec la voix de Doris Day, actrice et chanteuse de l'âge d'or d'Hollywood. Doris Day est morte aujourd'hui à l'âge de 97 ans. Le procès des époux Balkany va donc se poursuivre. Le tribunal correctionnel de Paris a rejeté aujourd'hui la demande de renvoi de la défense. Demande motivée par l'absence d'Isabelle Balkany, hospitalisée depuis le 1er mai après une tentative de suicide par médicament. Le maire de Levallois, Patrick Balkany, et sa femme Isabelle sont jugés pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Compte rendu de la première journée d'audience avec vous, Delphine Gauthier.
Pour le tribunal correctionnel, Isabelle Balkany a accepté d'être représentée par son avocat. Il n'y a donc pas de raison de renvoyer l'audience. Ce midi, Patrick Balkany est arrivé sans sa femme, entouré par une horde de caméras et de photographes. Isabelle Balkany n'est pas en état de comparaître, estiment les médecins qui la suivent, depuis sa tentative de suicide, trop fragile psychologiquement. Elle voulait venir à l'audience, assure son avocat, être face à ses juges, mais elle a craqué, explique Pierre-Olivier Sûr. Éric Dupond-Moretti demande lui aussi le renvoi. Patrick Balkany l'a trouvée inanimée, il l'a crue morte, lance son avocat. Laissez-le être au chevet de sa femme. Le renvoi rejeté, le pénaliste lance une nouvelle attaque. Il demande cette fois au président du tribunal de se déporter, autrement dit de ne pas présider l'audience. Éric Dupond-Moretti estime que l'une de ses décisions entache son impartialité parce que le magistrat avait écrit que la lutte fiscale est un enjeu majeur de l'action gouvernementale. Une phrase digne d'un préfet, pas d'un juge, tonne l'avocat. Une manœuvre pour ne pas être jugé, estime l'avocat. Avocat de l'État, partie civile dans ce dossier.
Delphine Gauthier, depuis le nouveau palais de justice de Paris, les époux Balkany encourent jusqu'à 10 ans de prison et des peines d'inéligibilité. Le procès doit durer jusqu'au 20 juin prochain. Les suppressions d'emplois reprennent chez Air France. 8 mois après son arrivée à la tête de la compagnie, le nouveau PDG, le Canadien Ben Smith, a annoncé aujourd'hui son premier plan de départ volontaire. Il pourrait concerner jusqu'à 465 salariés. Les emplois menacés se trouvent dans le réseau court-courrier d'Air France. Hakim Kasmi, le plan va de toute façon entraîner des fermetures de liaisons aériennes.
Oui, la compagnie va réduire de 15% son offre domestique, car Air France connaît une forte baisse sur son trafic, sur ses vols intérieurs, notamment sur la liaison Paris-Bordeaux, qui a longtemps été l'une de ses lignes les plus rentables. Mais voilà, l'arrivée de la LGV Paris-Bordeaux en 2 heures a totalement rebattu les cartes. La compagnie a dû réduire ses vols et utiliser des avions plus petits et parfois même affréter des avions venant d'Europe de l'Est avec des équipages moins coûteux. Une concurrence qui est aussi très rude et très forte dans les airs, puisque EasyJet, la compagnie low cost, représente aujourd'hui 35% du marché intérieur, ce qui a obligé la compagnie tricolore à délaisser certaines lignes province-province, une stratégie que dénonce Vincent Salle, secrétaire général de la CGT chez Air France.
Air France a délaissé le terrain, effectivement, il y a certainement un manque de réactivité, mais ça, c'est de la responsabilité des directions de l'entreprise. Et en aucun cas, on peut accepter qu'aujourd'hui, elle présente sa facture aux salariés, alors que ceux-ci ont déjà subi énormément avec les derniers plans de restructuration. Il y a eu plus de 40% de suppression d'emplois depuis 2010 sur le secteur du court-courrier, des escales de province. Et il y a eu une augmentation de productivité des salariés liées aux restructurations qui ont été mises en place de plus de 24% sur ce secteur-là. Donc la facture a déjà été présentée aux salariés. Et là, on nous propose encore une vieille recette, un nouveau PDG qui présente une vieille recette de suppression d'emplois.
Air France indique qu'il n'y aura pas de départ contraint et qu'il y aura des reclassements proposés, notamment dans les métiers commerciaux. L'année dernière, la compagnie a perdu 189 millions d'euros sur son marché des vols domestiques.
Hakim Kasmi, merci. La France rendra demain aux Invalides un hommage solennel à ses 2 commandos de marine tués la semaine dernière au Burkina Faso. Cédric de Pierrepont et Alain Berton-Cello sont morts en sauvant 4 otages, 2 Français, une Sud-Coréenne et un Américain. Des otages critiqués pour avoir fait du tourisme au Bénin dans une zone à risque. On en parle avec l'invité de ce journal, Michel Goya, historien, colonel en retraite des troupes de marine, spécialiste des questions militaires. Bonsoir.
Bonsoir.
Michel Goya, les quatre otages libérés, je le disais, ont été mis en cause pour leur imprudence. Pourtant, Emmanuel Macron les a reçus, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. Quel est votre avis sur cette polémique ?
Bon, je pense que c'est une polémique qui n'a pas vraiment lieu d'être. Il faut rappeler d'abord, la mission première de l'État est de protéger tous les citoyens. C'est pour ça que l'État existe et c'est pour ça qu'il dispose de la force légitime. Protéger tous les citoyens, même les imprudents. C'est ce qu'on fait très régulièrement sur le territoire national, les gens qui font du hors-piste, les gens qui vont en mer, les gens qui déclenchent les incendies par imprudence, ben on va quand même les sauver et il n'y a aucune question à se poser là-dessus. Maintenant, il y a une mention un peu particulière, effectivement, pour les gens qui sont pris en otage, et notamment par des ennemis de la France. Là, c'est une question qui devient politique, où ça engage, ça dépasse très largement... la responsabilité personnelle. Je pense que oui, ces deux hommes ont été imprudents, incontestablement. Maintenant, il n'y a pas de question à se poser, il faut quand même les secourir.
Justement, il est important que la France reconnaisse le sacrifice des militaires tués au combat en libérant les otages.
Bien sûr. Si les Français sont en sécurité, c'est que vous avez un certain nombre de gens qui prennent des risques, et que parmi les gens qui prennent des risques, il y en a certains qui ont accepté la vie près de la mort, quoi, qui ont accepté l'idée d'aller près de la mort, la mort donnée, aussi la mort reçue, mais aussi la mort donnée. C'est ça qui fait spécificité des soldats. Et il n'y a pas tant que ça dans la population française. Et donc, oui, bien sûr qu'il faut leur rendre hommage. Ce n'est pas été si évident que ça, hein. Il y a la réalité que depuis une dizaine d'années, depuis que on est rentré, ou la France, au moins la perception qu'elle est rentrée véritablement dans une période de guerre, donc c'est depuis l'engagement en Afghanistan qu'on rend hommage aux soldats qui sont tués avec cette tradition maintenant sur le pont Alexandre III à Paris, puis ensuite aux Invalides. Peut-être que les Français maintenant sont plus sensibles à ces sacrifices, sachant qu'eux-mêmes maintenant peuvent être frappés aussi, hein, sont touchés plus directement également par la guerre, hein. Donc c'est une chose nécessaire que les soldats qui tombent pour la patrie, qui se sacrifient en plus spécifiquement pour sauver des vies, qu'il leur soit rendu hommage. Maintenant, voilà, j'aimerais qu'il soit rendu hommage aussi un peu plus, de manière un peu plus manifeste et ouverte pour les vivants, que les Français ne se contentent pas de connaître maintenant le nom de héros morts, mais qu'ils connaissent aussi un peu le nom des héros vivants.
Est-ce qu'il faut désigner l'ennemi, nommer l'ennemi, à savoir l'islamisme radical, les mouvements djihadistes ?
Bien sûr, alors j'ai oublié un élément quand même très important, c'est qu'on a mis en cause les otages, mais ce qu'il faut mettre en cause, les vrais ennemis, ce sont ceux qui les ont capturés. C'est quand même eux sur qui doit se porter prioritairement notre colère. Ensuite, deuxième élément, ces ennemis, je peux les nommer, évidemment. Bien sûr, quand on déclare la guerre à quelqu'un, on déclare pas la guerre à quelque chose. Déclarer la guerre au terrorisme, comme c'est le discours officiel, c'est des moments d'une grande stupidité. Ça ne veut absolument rien dire. On reprend la phraséologie, d'ailleurs, de l'époque Bush aux États-Unis, une phraséologie dont on se moquait et que l'on a repris intégralement. Le terrorisme, c'est un mode d'action. En réalité, derrière, il y a des gens. Il y a des gens, il y a des organisations, il y a la Katiba Massina, il y a le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou l'État islamique dans le Grand Sahara, pour désigner des organisations. On fait la guerre des entités politiques. C'est la guerre, c'est de la politique. Voilà, il ne faut pas hésiter à le dire. Faisons la guerre des ordres. Actuellement, nos soldats tombent face à nos civils aussi, hein, tombent face à des organisations islamistes et djihadistes. Bien sûr, il ne faut pas hésiter à les nommer. Sinon, on se trompe, sinon on restreint l'action des choses, incontestablement. Il faut faire de la politique.
Et les pouvoirs publics, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils nomment les choses, le gouvernement, Emmanuel Macron ?
Non, ils ne nomment pas les choses. On ne nomme même pas l'État islamique par son nom. La phrase complète, déclarer la guerre, c'est déclarer la guerre à quelqu'un. Et donc, on a repris... le terme de guerre, c'est un peu nouveau, hein. Ça date de l'Afghanistan, mais c'est vraiment assumé depuis 2013 et l'engagement au Mali. Donc là, on dit la guerre, mais on voit même qu'il y a une petite réticence à finir la phrase et à dire à qui on fait la guerre. Désigner un ennemi. Faire la guerre, c'est désigner un ennemi. Sinon, c'est de la police. La police, il n'y a pas d'ennemis. Il y a des gens qui contreviennent à la loi. Et à l'ordre et à la loi. Là, c'est autre chose. Là, il faut désigner des ennemis et on voit bien qu'on a un peu de mal. Un peu de mal. Parce que un peu de mal à désigner ses ennemis comme islamistes, les rattacher à l'islam. On a un peu de mal aussi parce que c'est toujours délicat. Désigner un ennemi, c'est désigner un peu un alter ego politique, hein. C'est quelqu'un, c'est un interlocuteur violent. C'est quelqu'un à qui on va essayer d'imposer sa volonté. Et c'est toujours délicat de lui donner ce statut. Donc on aura toujours plutôt tendance à le réduire au rang de criminel, de fou, de psychopathe, de tout ce qu'on veut, mais pas d'entité politique. Or, si on le restreint à cela, on restreint considérablement le champ de notre action à la seule recherche de l'élimination, de la destruction, sans forcément chercher à comprendre derrière quelles sont les motivations politiques qui font que ces gens-là existent. En réalité, ils se portent volontaires pour prendre des risques eux aussi et nous combattre. Donc oui, il est peut-être temps, là aussi, de dire les choses telles qu'elles sont, en réalité, tout simplement, de prendre les citoyens français pour des grands, des gens adultes et de leur dire la vérité.
Michel Goya, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Jusqu'où ira la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis? Nouvel épisode aujourd'hui. Pékin a décidé de riposter à la dernière augmentation des tarifs douaniers américains sur ses produits. À compter du 1er juin, le régime communiste va imposer de nouvelles taxes sur les produits américains importés en Chine. La correspondance de Dominique André.
Les nouveaux tarifs douaniers concerneront 5140 produits américains. L'augmentation est comprise entre 5 et 25%. 60 milliards de dollars de marchandises américaines importées par la Chine sont touchés. Ce train de hausse supplémentaire s'ajoute au précédent qui avait déjà surtaxé la quasi-totalité des produits américains à leur entrée sur le marché chinois. Le gouvernement à Pékin a maintes fois répété qu'il ne céderait pas aux pressions extérieures et qu'il défendrait ses droits. Personne ne doit attendre que la Chine avale des couleuvres, écrit le quotidien du peuple. Le Global Times, journal nationaliste appartenant au Parti communiste, souligne l'endurance de la Chine, forte de sa philosophie du tai chi. L'une de ses signatures, Ru Xitin, ajoute que la Chine pourrait cesser d'acheter des produits agricoles américains et du pétrole, réduire ses commandes de Boeing, et il met en garde aussi sur le risque que la Chine, premier détenteur de la dette américaine, se débarrasse d'une partie de ses obligations du Trésor américain. Cette mesure de représailles est peu probable selon les experts. Tous les yeux sont maintenant tournés vers le G20 au Japon le mois prochain, où Xi et Trump pourraient se voir en tête-à-tête. La Chine n'a toutefois pas confirmé cette éventuelle rencontre.
Dominique André, depuis Pékin, effectivement, ce soir, Donald Trump annonce qu'il rencontrera ses homologues chinois et russes Xi Jinping et Vladimir Poutine fin juin au Japon lors du sommet du G20. Le président américain se déclare convaincu que la Chine cherche à négocier un accord commercial avec Washington. C'était une légende d'Hollywood, à la fois actrice et chanteuse. Doris Day est morte aujourd'hui en Californie, emportée par une pneumonie à l'âge de 97 ans. De son vrai nom, Marianne von Kapelhoff, Doris Day avait débuté sa carrière pendant la guerre en chantant pour les soldats américains. Elle connaîtra la gloire mondiale avec un titre Que sera sera qu'elle chantera dans un film de Hitchcock. Retour sur la carrière de Doris Day avec notre correspondant à New York, Loïc Loury.
Une danseuse blessée qui se tournera vers la chanson puis le cinéma. Drôle de carrière que celle de Doris Day, deux décennies de succès qui feront d'elle le visage d'une certaine Amérique candide et propre sur elle. Une image qu'elle met d'abord au service de sa voix chaude, de son Sentimental Journey, en 1945 sera en quelque sorte la bande-son du retour des héros après la guerre. Got my bag. Dans les années 50 et 60, Doris Day passera naturellement devant la caméra. Elle incarnera l'image de la voisine parfaite, sourire chaste et blondeur lumineuse, un masque qu'elle portera tout au long de sa carrière malgré les épreuves et l'absence de véritable reconnaissance. Doris Day en effet ne recevra jamais d'Oscar, trop attirée peut-être par les vaudevilles et les comédies romantiques. En 1956, elle jouera pourtant notamment pour Alfred Hitchcock dans L'homme qui en savait trop. Elle y interprète son célèbre Que sera sera. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Après la musique, le cinéma, la télévision, Doris Day mettra un terme à sa carrière pour se consacrer aux animaux, l'une de ses premières passions et la toute dernière. Que sera sera, whatever
will be, the future's not ours. Que sera sera, la voix unique de Doris Day, disparue aujourd'hui à l'âge de 97 ans. On termine ce journal avec le temps. Demain, globalement ensoleillé. Seul l'extrême sud-est et la Corse verront des passages nuageux, localement porteurs d'averses. Les températures minimales resteront fraîches sur le nord-est, entre 3 et 6 degrés. Ailleurs, le thermomètre oscillera entre 6 et 14 degrés. L'après-midi, il fera entre 14 et 25 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.